Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Idrissa Seboudia, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a exprimé hier sa profonde inquiétude face à l'escalade rapide et la propagation mondiale du coronavirus. Cette maladie a désormais atteint 205 pays et territoires et pourrait toucher dans les prochains jours 1 million de personnes et causé 50 000 décès dans le monde entier. L'OMS, la Banque mondiale et la FMI veulent, a encore dit le patron de l'OMS, l'allègement de la dette pour aider les pays en développement à faire face aux conséquences sociales et économiques de la pandémie. La pandémie qui a fait à ce jour plus de 46 000 victimes, plus de 900 000 cas de COVID-19 ont été recensés dans le monde, dont 215 000 aux États-Unis, où la maladie progresse le plus vite. Malgré des mesures de confinement qui concernent près d'un habitant de la planète sur deux, les bilans sont de plus en plus lourds. Plus de 13 000 morts en Italie, plus de 9 000 en Espagne, plus de 5 000 aux États-Unis et plus de 4 000 en France. Le trafic au port d'Abidjan, leader en Afrique de l'Ouest et représentant 90% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire, devrait baisser en 2020 en raison du coronavirus après avoir connu une hausse importante, a annoncé mercredi son directeur INCA. On ressent l'impact de cette pandémie sur le port, la Chine ayant été fermée pendant longtemps, l'Europe est barricadée. Poumon économique de la Côte d'Ivoire, le port d'Abidjan, qui emploie directement et indirectement près de 100 000 personnes, approvisionne également les pays de la sous-région dépourvus de façades maritimes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et au Niger même, la croissance économique devrait baisser fortement de 6,9% à 4,1% en 2020, à raison de la perturbation sur les activités économiques, a indiqué le ministre des Finances Mamadou Diop à la télévision publique en annonçant d'importantes mesures de soutien. Il a estimé à près de 600 milliards de francs CFA les besoins financiers pour soutenir l'économie et la population, sans préciser si l'État nigérien disposait effectivement de cette somme. La pandémie a fait 2 nouveaux morts au Niger pour un total de 5 et on signale 40 nouveaux cas, dont les 2 premiers hors de la capitale Niamey à Maradi au sud, pour un total de 74 cas. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, un soldat a été tué et une quinzaine d'assaillants djihadistes présumés abattus dans la nuit de mardi à mercredi, lors d'une attaque contre un détachement à Toeni, dans le nord-ouest du pays, a annoncé l'état-major des armées. Selon une source sécuritaire, les assaillants ont mené l'attaque avec un grand nombre de combattants venus à bord de motocyclettes et de véhicules militaires. Dimanche, 3 gendarmes burkinabés avaient été tués dans une attaque à l'explosif à Gomboro, localité également située dans la boucle de Nouhoun. En Guinée, le parti du président Alpha Condé, dont le projet de nouvelle constitution est au cœur d'une grave crise politique, a remporté plus des 2/3 des sièges, soit 79 sur 114, lors des législatives du 22 mars, boycottées par les principaux partis d'opposition, a annoncé mercredi la commission électorale. Le pouvoir avait déjà proclamé la semaine dernière la victoire du oui à plus de 90% lors d'un référendum organisé le même jour sur le projet de nouvelle constitution proposé par le président guinéen et considéré par l'opposition comme un stratagème pour un nouveau mandat à la tête du pays.
La suite de l'actualité. Au Congo, une vingtaine de personnes sont mortes électrocutées hier. La foudre a frappé une ligne à haute tension à Kentele, dans la banlieue de Brazzaville. Eric Manirakidza.
Stella Mensah Sassou Nguesso, maire de Kentele et fille du président Sassou Nguesso, a confirmé les 20 morts. Sept cadavres ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Talangay et 13 autres à la morgue municipale du CHU. De fortes pluies sont tombées hier matin sur Brazzaville. Selon un témoin, la foudre a sectionné deux câbles d'une ligne haute tension. Un câble est tombé sur une maison qui a été en partie incendiée et a électrocuté les trois occupants. L'autre câble, qui traînait dans la cour envahie d'eau, a électrocuté des voisins qui ont accouru pour apporter des secours. Des vidéos amateurs postées sur les réseaux sociaux par les habitants de Kentele montrent un incessant balai d'ambulances et de corbillards. Des particuliers ont aussi embarqué à bord de leurs véhicules des corps et des blessés dont le nombre n'a pas été évoqué par la municipalité de Kentele. C'est à l'État que revient la charge d'enterrer les personnes victimes de cette catastrophe, a déclaré la fille du président congolais, maire de cette nouvelle commune construite au nord de Brazzaville. Le drame intervient au premier jour du confinement de la population décrété par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus dans le pays.
Le Sénégal se prépare à apporter une aide alimentaire d'urgence à des millions de Sénégalais exposés aux effets de la pandémie de coronavirus. Les précisions de Jacques Aristide.
Le gouvernement a fait paraître dans les médias des avis de commande publique pour 5000 tonnes de riz, 500 tonnes de sucre, 1000 tonnes de pâtes, 10 000 litres d'huile ainsi que du savon. Ces commandes sont destinées à 1 million de ménages défavorisés impactés par le Covid-19. Cela représente 8 millions de Sénégalais, soit la moitié de la population. Le Sénégal a confirmé 190 cas de contamination et depuis mardi, un premier décès. Dakar a décrété l'état d'urgence et imposé un couvre-feu nocturne. La crise sanitaire a poussé ceux qu'ils pouvaient à faire des provisions, mais environ 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 2 dollars par jour, d'après la Banque mondiale, et nombre de Sénégalais vivent de débrouilles ou de l'informel au quotidien. La ministre du Commerce Aminata Assom Diatta a récemment déclaré que le marché était suffisamment approvisionné en denrées, mais que les stocks pourraient s'épuiser rapidement en cas de demande excessive.
Aux États-Unis, tous les détenus des prisons fédérales, près de 170 000 personnes, ont été placés hier à l'isolement pour au moins 2 semaines. C'est pour y éviter une flambée de coronavirus. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
L'épidémie de Covid-19 s'accélère dans les 122 établissements fédéraux où 29 détenus et 30 gardiens ont été contaminés. Pour une période de 14 jours, les détenus de chaque établissement resteront dans leurs cellules ou quartiers, a annoncé hier le Bureau fédéral des prisons. Les défenseurs des droits des détenus ont vivement critiqué la mesure qui n'est généralement utilisée qu'en cas de mutinerie. Être mis à l'isolement est une torture, a dénoncé sur Twitter Scott Eschinger, avocat de détenus à New York. De telles mesures ont suscité des émeutes meurtrières dans des prisons en Italie ou en Jordanie et des évasions en masse au Venezuela ou au Brésil. Plus de 190 000 personnes ont été contaminées et le coronavirus a fait plus de 4 100 morts aux États-Unis. Ainsi, de nombreuses voix s'élèvent pour demander de désengorger les prisons. Plus de 2,2 millions de personnes sont derrière les barreaux. C'est la plus importante population carcérale au monde.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le gouvernement botswanais va subventionner les salaires des employés des entreprises privées les plus touchées par la pandémie de coronavirus. L'État va aussi garantir des prêts bancaires pour les sociétés les plus impactées par le Covid-19. Certaines recevront des dérogations d'impôts. Le président Mogwesi Eric Masisi a déclaré l'état d'urgence à compter de ce 2 avril jusqu'à nouvel ordre. Le Club de Paris, le groupe informel de créanciers publics, a convenu mardi de restructurer la dette de la Somalie en annulant immédiatement 67% de la dette, soit 1,4 milliard de dollars dus par le pays. Selon le ministre somalien des Finances, Abdirahman Bélé, le gouvernement tiendra des discussions bilatérales séparées avec les créanciers pour finaliser le processus. La Somalie poursuivra aussi les réformes économiques qu'elle avait entreprises au cours des 8 dernières années pour permettre l'allègement de la dette. Terminons par le gouvernement ghanéen qui prévoit un déficit de près de 1 milliard de dollars de recettes pétrolières en 2020 à cause de la baisse de 50% du prix mondial du pétrole due en partie au coronavirus. Selon Reuters, le Ghana s'attend aussi à une baisse des recettes fiscales et des droits d'importation. Pour essayer d'amortir le déficit économique, la Banque centrale a baissé ses taux d'intérêt, tandis que le gouvernement a demandé au FMI environ 550 millions de dollars de financement d'urgence.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les réactions se sont multipliées après l'annonce du décès de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, décédé mardi des suites du coronavirus. Le président sénégalais Macky Sall a salué une grande figure du sport et une éminence grise du football. L'ancien président de l'Association de la presse sportive sénégalaise, lui, retient les qualités humaines de l'homme.
C'est un homme d'une très grande urbanité, qui avait beaucoup d'amis, parce que c'est un homme qui était entier, c'était un homme qui était sincère, des qualités qui font que beaucoup de gens pouvaient cheminer avec lui.
Mamadou Koumé, ancien président de l'Association de la presse sportive sénégalaise. Les fans sénégalais de l'Olympique de Marseille, réunis au sein du club des supporters de l'Olympique de Marseille au Sénégal, disent avoir de l'admiration pour l'homme.
Nous perdons un très grand homme, dans le sens où non seulement Pape Diouf était sénégalais, mais en plus de cela, il a été le premier noir président d'un club d'élite des 5 grands championnats européens. Pape Diouf représentait un bel exemple pour nous. Il était aussi une référence dans le sens où, par exemple, il représentait un exemple parfait de réussite du fils du Sénégal, parti en Europe pour s'imposer dans le journalisme, dans son travail en tant qu'agent de jour et aussi dans sa gestion de l'Olympique de Marseille.
Adama Diouno, vice-président du club des supporters de l'Olympique de Marseille du Sénégal. Des acteurs du football africain lui ont aussi adressé un ultime coup de chapeau. Pape Diouf était un homme exceptionnel et son parcours le prouve. Il restera une gloire de notre sport et une fierté pour l'Afrique, a écrit Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football. Tu étais le meilleur d'entre nous et un modèle pour moi, a tweeté Mamadou Niang, buteur du dernier OM champion de France. Il m'appelait fils, je l'appelais père et il a été mon agent, mon président, mais avant tout un homme exceptionnel pour moi, a lancé Habib Bey, ancien international sénégalais. La dignité, l'élégance, l'éloquence personnifiée, a réagi l'ancien international malien Frédéric Kanouté. Mon papa, mon grand-père et mentor, a tweeté le Ghanéen André Ayou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Hey there, hello. VOA Afrique vous présente Learning English, un programme entièrement en anglais, tous les soirs, pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. Vous retrouverez dans ce programme la lecture posée, les phrases et le vocabulaire spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. Rendez-vous sur VOA Afrique pour plus d'anglais avec Learning English à partir de 21h30 TU après English USA sur FM sur VOA Afrique.
Le
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, pour nos dossiers du jour. Au Nigeria, l'interdiction de tout mouvement a été décrétée depuis lundi pour au moins 14 jours dans les États de Lagos et Abuja. Certains Nigérians apportent leur soutien, comme l'artisan Bamigboze Adamu, à Lagos. Ils recyclent des tonneaux métalliques en unités mobiles de lavage des mains en les équipant d'évier. Ils ciblent les magasins, les restaurants et les écoles qui n'ont pas de dispositif de lavage des mains à leur entrée. Davantage de détails avec Jacques Aristide.
Le premier cas de coronavirus a été répertorié au Nigeria à la fin de février. Bamigboze Adam savait d'emblée que la pandémie allait impacter son entreprise et beaucoup d'autres dans le pays le plus peuplé d'Afrique. En temps normal, comme source de revenus, il recycle des pneus de voiture pour en faire des meubles. Avec l'apparition du Covid-19, Bamigboze Adam a constaté que des milliers de petites entreprises allaient avoir besoin d'unités de lavage des mains pour leurs clients.
J'ai vu que ce n'était pas le meilleur moment pour vendre mon produit, mes pneus. Et je me suis dit que ce que je pouvais faire avec ça pouvait aider la situation. Alors j'ai pris le premier fût pour le travailler et ça a marché. J'ai mis des photos en ligne et les gens ont commencé à passer des commandes.
Il fait tout manuellement. Ses seuls outils, un marteau et un ciseau qui aident à créer deux ouvertures à l'arrière de chaque fût. L'une est une entrée d'eau et l'autre sert de sortie. Pour ceux qui n'ont pas d'eau courante, il a tout simplement conçu une sortie et un seau placé au-dessus du fût pour contenir l'eau. Bamigboze Adam vend une unité entre 70 et 80 dollars américains. Il a reçu de nombreuses commandes après avoir affiché ses nouveaux produits sur les médias sociaux.
Mes clients cibles sont les propriétaires de magasins, les restaurants, les écoles et les lieux où le public se rend pour se procurer de la nourriture et des médicaments. Et ces lieux ne sont pas disposés à installer une céramique près de la porte. Pourquoi ? Parce que cela la rendrait permanente. Mais dans ce cas, elle est mobile. Elle peut être déplacée à l'intérieur ou à l'extérieur.
Seun Sangolei se fait appeler la maman chef de Baby Grubs, une entreprise qui produit une gamme de céréales pour les enfants. Elle est l'une des premières clientes de Bamigboze Adam.
Notre propre station de lavage des mains se trouve juste devant l'usine, pas pour les visiteurs, mais nous constatons maintenant que même nos visiteurs ont besoin de se laver les mains lorsqu'ils profitent de leur passage pour faire des achats également.
Un pari aussi ambitieux que risqué, le confinement semblait être respecté dès les premières heures dans une grande partie de Lagos, la mégapole de 20 millions d'habitants. Dans plusieurs quartiers de la capitale économique, tous les magasins sont fermés, les marchés abandonnés et les rues quasiment désertes, hormis quelques rares voitures bravant les checkpoints des forces de sécurité déployées le long des grands axes. Des mesures strictes pour tenter d'endiguer la propagation du coronavirus au Nigeria.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Sénégal a enregistré son premier décès lié au coronavirus en la personne de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille. La disparition de cette figure très appréciée du grand public plonge les Sénégalais entre tristesse et prise de conscience sur la dangerosité du Covid-19. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
De Pape Diouf, la majorité des Sénégalais retient un homme qui a su se frayer un chemin dans un univers où peu de Noirs ont jusqu'alors évolué. Pour Mamatar Seck, Pape Diouf est un exemple pour tout jeune Sénégalais et Africain.
C'est une référence, c'est quelqu'un qui est parti de... Je dirais pas qu'il est parti de rien, mais il est parti à un niveau 1, il a atteint le sommet. Voilà, dans là où il excellait vraiment, qui est le monde sportif, qui est un monde de prédateurs, il a su s'imposer. D'agent de joueur, de manager, jusqu'à devenir un président de club, là, c'est pas du tout facile pour un Africain. Si c'est pas une première, je pense que ça fait partie des premières aussi.
Au-delà des jeunes qui le considèrent comme leur idole, Pape Diouf était également très apprécié par les autres franges de la population. Pape Sogui Diarra, commandant de gendarmerie à la retraite, estime que c'est une perte qui a touché chaque Sénégalais.
Quand il y a mort d'homme, vraiment, on ressent ça du plus profond, d'autant plus que ça concerne une personne emblématique qui est Pape Diouf, que j'ai connu à travers le football. Je pense que hier, à 19h, entre 19h et 20h, vraiment, tout le monde était touché et tout le monde était choqué. Mais ainsi va la vie. En Dieu, nous venons et en Dieu, nous retournons. Donc, on va vraiment essayer d'accepter ce qui est arrivé à Pape Diouf et d'essayer d'en tirer les considérations.
Des considérations et des conclusions qui doivent permettre aux Sénégalais de prendre conscience du danger que représente le Covid-19. Le décès de Pape Diouf sonne déjà comme une piqûre de rappel pour les plus sceptiques, d'après Hassane Djiba.
Ça va plus nous motiver davantage à nous préserver contre le coronavirus. Car le corona est une maladie vraiment mortelle. Il y a des gens qui croient que ce sont des blagues ou bien qui prennent ça comme des intox, mais ce ne sont pas des intox, ce sont des choses véridiques qui sont réelles.
Beaucoup de Sénégalais sont peinés par la disparition de Pape Diouf, une figure emblématique du sport mondial. Certains pensent que le fait qu'une personnalité comme lui soit le premier décès lié au Covid-19 va pousser les Sénégalais à faire plus attention et davantage prendre au sérieux cette pandémie qui frappe durement le monde. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Guinée, le nombre de cas positifs au coronavirus est passé ce mercredi à 30. Le pays enregistre 8 nouveaux cas en 2 jours. Pour stopper la propagation du Covid-19, le président Alpha Condé a décrété le 27 mars l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 30 jours. Mais sur le terrain, certaines mesures peinent à être appliquées. De Conakry, correspondance de Zakaria Camara.
En plus des gestes barrières qu'elle recommande, les autorités guinéennes ont interdit tout mouvement entre Conakry et le reste du pays. Au deuxième jour d'isolement de la capitale, la gare routière de Bambeto présente un tout autre décor. Au milieu de plusieurs véhicules de transport, les rares passagers et chauffeurs de taxi semblent prendre leur mal en patience.
Depuis 7h, je suis là. On est à 9h comme ça. J'ai demandé le chauffeur, il a dit qu'il n'y a pas de voyage. Il y en a voiture, mais personne ne peut pas voyager jusqu'au 15 jours.
On ne va nulle part. On ne fait rien. Il n'y a pas où aller. Nous avons le véhicule 9 places. Si c'est 6 places, tu peux prendre ton véhicule, sortir, chercher un peu. Mais si c'est 9 places, tu es à garer. Jusqu'à ce que le confinement est fini, on nous libère.
Le gouvernement guinéen interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes. Les lieux publics, écoles, bars, salles de jeux, de spectacles et de cinéma, ou encore les lieux de culte sont fermés pour une durée de 14 jours. Mais dans certains quartiers, la distanciation est loin d'être une réalité, comme le témoigne ces Guinéens rencontrés dans la banlieue de Conakry.
J'habite à la cité de l'air à propos de ce maladie. Vraiment là-bas, on ne prend pas ça au sérieux. On ne se protège pas, on ne se lave pas les mains. Et puis il y a d'autres qui considèrent ça comme c'est de la politique. Donc vraiment, c'est de chercher des personnes pour sensibiliser. Là où les gens n'ont pas cru que la maladie là existe, ils ne peuvent pas considérer la distance ou de laver les mains, non. Il y a plein d'illettrés. Vraiment, s'il y avait des personnes à sensibiliser, c'est la meilleure solution.
C'est vrai, dans les églises, dans les mosquées, les fidèles n'y fréquentent pas, mais il faut cependant souligner, quand même dans certains lieux de loisirs, notamment dans les maquis, les cabarets, ces cabarets ne désemplissent pas. Hein. Chaque fois, je vois des gens un peu partout. Je vois des gens quand même qui sont assis côte à côte en train de prendre la bière.
Le nombre de places dans les taxis est limité. Un couvre-feu est instauré dans la capitale de 21h à 5h du matin. Des mesures qui s'ajoutent à la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Parmi les 30 cas confirmés, il y a le ministre guinéen des Travaux publics et la présidente du Conseil économique et social. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Cameroun, le gouvernement lance une opération de retrait volontaire des enfants de la rue à Yaoundé pour les protéger de la propagation du COVID-19. Sous l'égide du ministère des Affaires sociales, 88 enfants ont intégré des centres où ils vont séjourner pendant 3 mois. De Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Plus de 80 enfants de la rue, âgés de 7 à 17 ans, qui erraient au centre commercial de Yaoundé, ont regagné 3 centres d'écoute et de transit dès ce mercredi. Ils sont les premiers bénéficiaires du projet pilote de prise en charge et d'observation des enfants de la rue au moment où la pandémie du COVID-19 sévit au Cameroun. À leur arrivée dans les centres sociaux, lavage des mains au savon et à l'eau courante, prise de température au thermoflash, réception des masques de protection sous le contrôle des forces de l'ordre postées à l'entrée des sites. Pour ce premier jour, le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, est sur place.
Nous allons être avec vous tous les jours pendant 3 mois pour qu'au sortir de là, vous ayez quelque chose à faire dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur, pour être sérieux dans ce que vous allez faire.
Des stands de cliniques médicales pour les premiers examens ont été mis sur pied dans les différents centres qui accueillent ces enfants de la rue, comme l'explique ce personnel du ministère des Affaires sociales.
Après qu'ils aient été testés du coronavirus par le thermoflash, nous allons procéder à l'examen physique afin d'identifier différentes pathologies.
Amadou et Abdoulaye sont 2 enfants de la rue bénéficiaires de cette opération qui vise également à les resocialiser.
Je vivais à poste comme les affaires sociales nous appliquent.
Il y a envie d'apprendre d'abord métier. Il y a envie d'apprendre à conduire pour quitter la rue.
Adalbert Atangana est le directeur du centre de coute et de transit de Yaoundé, situé au lieu dit rue Cépère. Il pense que le premier objectif de cette opération est atteint.
On les encadre, on va les écouter. L'objectif était de susciter en eux l'envie de partir de la rue.
Pour mener l'opération de retrait volontaire des enfants de la rue, en vue de réduire leur exposition à la pandémie du nouveau coronavirus, le ministère de la Santé publique a travaillé avec Alain Otou, un ancien enfant de la rue, aujourd'hui reconverti.
On a fait comprendre que ce n'est pas quelque chose qu'on va vous faire climat. Ici, c'est en sécurité.
Le Cameroun a dépassé le 31 mars le seuil de 200 personnes testées positives au COVID-19. Le ministère de la Santé publique recommande de plus en plus aux populations de rester chez elles et à se protéger avec des masques dans les lieux publics. Yaoundé, Emmanuel Jelunta, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Cette édition du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia et de Michel Joseph pour la mise en œuvre. Bonne journée. à l'écoute de VOA Afrique.